c'est à ça, le principe d'incertitude en physique, c'est que si vous prenez une photographie d'une explosion moléculaire au niveau de l'atome, au niveau de dimensions qui sont extrêmement fines, qui sont du même ordre que le phénomène photographique. Quand vous prenez une photo, vous prélevez, on va vous dire de l'énergie, vous prélevez des photons, vous prélevez des particules, quand vous faites. Ce que vous photographiez, vous allez lui piquer un peu quelque chose. Comme quoi, les Indiens d'Amazonie sont pas complètement idiots quand ils trouvent que prendre leur image, quand on les prend en photo, c'est pas bien, on les laisse de quelque chose. Bon, évidemment, au niveau macroscopique, vous en foutez qu'on vous prenne un peu de lumière, de ce que vous reflétez tellement lumineusement. Il m'a pris un peu de ma lumière, le photographe. Bon. Le problème, c'est que quand vous arrivez à des phénomènes qui sont du même ordre que la photographie, ben là, ça fait des mélanges. Donc, Freud, il fait la même chose, et qu'est-ce qu'il fait? Il s'aperçoit que si vous êtes un sujet du langage, et que par hasard, parce que votre civilisation vous a conduit à devenir neurologue et à appeler appareil psychique l'appareil neuronique, le système nerveux, c'est-à-dire le moi. Tout ce système, l'appareil psychique, c'est le système neurologique. C'est pas le système phonologique, c'est le système neurologique au départ pour Freud. Il va passer du système neurologique au système phonologique. Comment ça va se passer? Ça va se passer simplement parce qu'il va s'apercevoir justement que il faut tout réinventer et que quand on réinvente tout, on construit autre chose. Donc il va s'apercevoir que pour étudier l'appareil neurologique, l'appareil psychique des autres, il faut modifier son propre appareil psychique. Parce que quoi que vous fassiez, vous êtes en train de vous êtes impliqué dans l'affaire. Et plus vous vous trouvez dans un même registre d'interaction, c'est pour ça que moi, les histoires des sociologues ou des psychologues qui sont là en train de se poser des problèmes de neutralité, d'expérience neutre, qu'il faudrait. C'est comme les Kléniens, vous savez, dans la psychanalyse de Mélanie Klein, les Kléniens, ils doivent absolument pas intervenir dans le transfert de leurs patients. Alors ils sont là. Ils achètent un blazer, ils en achètent trois. Ils achètent une cravate, ils en achètent cinq. Ils ont les chemises, ils en ont quatre. Pourquoi? Parce qu'ils doivent être toujours sapés de la même manière. Faut pas bouger un bibelot dans la salle d'attente. Et qu'est-ce que c'est que ces gens? Ils voudraient quoi? Ils veulent être des neurologues, ils ont qu'à faire de la neurologie. Avec un bon microscope, et puis, on découpe la barbaque neurologique en tranches, et puis on regarde ça avec les couleurs, c'est très joli. Seulement le problème, c'est que c'est pas du tout le même problème. Je viens de voir un type qui est un peintre qui fait une étude sur une grotte en Italie, magnifique. Un type, il est fasciné par les peintures rupestres. Alors j'étais vachement content parce que c'est un peu comme ce que je vous mets au tableau. Mettons qu'il y a une bombe atomique qui tombe tout de suite. Si on trouve ça, on dira qu'est-ce qu'il faisait. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens-là? Vous voyez, c'est-à-dire que c'est des trucs absolument invitables. Vous êtes comme ça. Et bien lui, il est. Alors, même les paléontolithiques spécialistes, ils disent des conneries. Ils parlent autant de signes, ils parlent de signes. C'est à cause de Saussure, ça, pas de signes. Ils faisaient râler les chenilles. Il a raison. C'est pas des signes, c'est de l'écrit. C'est pas de l'écrit, c'est du trait unaire. Voilà, c'est le mot qui est venu sous la plume de Freud, Enzigerzoom. C'est une caricature de l'être, c'est une lettre avant la lettre. C'est la différence qu'il y a entre les. Vous voyez bien qu'il y a une différence entre faire le portrait de quelqu'un, faire la caricature de quelqu'un, puis écrire un caractère comme la bruyère. Quand vous faites une caricature, c'est du caractère, mais vous n'écrivez pas avec une langue qui est une langue écrite. Vous écrivez avec une écriture que vous inventez, qui est une espèce de lisibilité avant la lettre. C'est un peu comme ce que sont les mythologies pour les Lévi-Strauss. C'est déjà de l'écrit, c'est les mythes. Lévi-Strauss, quand il a compris ce que c'était que la phonologie, il a vu que. C'est pas des histoires, des conceptions du monde, des religions archaïques, des histoires d'origine, toutes ces conneries que les Occidentaux projetaient sur la mythologie. Il s'est aperçu que c'était des moyens mnémotechniques pour accumuler l'expérience. Ils n'avaient pas d'écriture, mais ils avaient quoi? Ils étaient déjà dans le rêve et dans le mythe, et dans une accumulation de l'expérience grâce à des moyens mnémotechniques. Et grâce à ça, les Lévi-Strauss aussi peut lire les mythologies. On a fait quatre volumes.
Il n'a plus besoin de supposer que les types sont des cons, et que lui, il est au-dessus de la mêlée, et qu'il comprend mieux, parce que c'est des naïfs ou des enfants.
Non. Donc voilà, vous voyez, c'est ça cette histoire de structure. C'est comment arriver, grâce à ces écritures à la noix, à s'apercevoir qu'il y a une espèce de décantation, de condensation, et que plus on approche de cette écriture condensée, ben, plus celui qui l'a inventé, il trouve que les choses s'éclairent, et plus celui qui le regarde de l'extérieur, il n'y comprend rien. C'est Blaise Pascal qui le dit très bien. Hein. Il dit, plus le mathématicien précise, avance dans son écriture, plus, pour lui, les choses deviennent de plus en plus limpides et claires, et nettes, et précises. Et plus ça devient invitable pour les autres. C'est une écriture spécifique. C'est une écriture spécialisée. La question, elle est là. La question, moi, je pense qu'il faut faire le lien entre certains objets, c'est ce qui me semble que fait Lacan, le lien entre certains objets mathématiques et, regardez, ça commence déjà avec Freud. Freud, qu'est-ce qu'il fait? Il entend Brentano, dans un cours où il est allé à Vienne, il entend Brentano parler de la négation qui a un nouveau caractère. La négation, Frege a beaucoup écrit sur la fonction propositionnelle, comment le concept peut-il être une fonction, et puis l'existence qui est un canteur. Et bien, il fait un article qui s'appelle la dénégation ou la négation, vous pouvez traduire comme vous voulez. Ça veut dire que dès qu'il voit qu'il y a des gens qui, en logique, ont écrit, ont inventé des nouveaux caractères d'écriture, Freud, il s'appuie là-dessus pour essayer d'expliquer ce qu'il fait en matière d'inconscient, de processus primaire et de processus secondaire. Bon. Donc Lacan, il prolonge ça. Il prolonge ça. Et la question, c'est de choisir les bons éléments. Alors moi, je vous dirais les choses comme ça. Je pense que Lacan, la topologie, elle est venue de la logique. Je vous l'ai déjà dit, ça, c'est cette façon de faire de calculer sur le 0 et le 1, c'est quoi? Cette façon de calculer sur 0, 1, je vais le mettre ici, hein, c'est que vous allez piger ce que c'est que l'algèbre linéaire. Je mets trois ronds, vous voyez? Vous avez un rond P, un rond Q et un rond R. Bon, ben, ici, vous êtes en dehors de P, en dehors de Q et en dehors de R. Vous êtes dans une zone, quand vous êtes tout autour de mes trois ronds, vous êtes dans une zone qui est 0, 0, 0. Si vous rentrez ici, vous êtes 1 pour P, 0 pour Q et 0 pour R. Si vous passez ici, ici, vous êtes dans 1 pour P, 1 pour Q et 0 pour R. Et là, vous êtes à l'intérieur des trois ronds. C'est 1, 1, 1. Vous voyez le rapport? Est-ce que vous commencez à voir la relation qu'il peut y avoir entre ce diagramme et cette écriture? Alors, c'est encore plus fort, parce qu'ensuite, il ne s'agit pas seulement de décrire les zones atomiques ici. Il s'agit de les composer ensemble pour faire des complexes de zones. Hein. Et ça, là, il appelle ça topologie. Enfin, il n'a pas tort. Hein. Les logiciens qu'il a lus dans les années 30, à l'école de Lourbart-Sourville, ils parlaient comme ça. Ils s'étaient aperçus que la syllogistique d'Aristote, c'est-à-dire déduire que tous les Grecs sont des hommes et tous les hommes sont mortels, donc les Grecs sont mortels, c'était un truc qui rentrait là-dedans. Hein. Vous connaissez le Barbara? Comment on appelle ça, le syllogisme Barbara des Grecs et des mortels et des hommes. Hein. Regardez, tous les Grecs sont des hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Grecs qui ne soient pas des hommes. Vous voyez ça? Les Grecs sont tous des hommes. Il n'y a pas de Grecs qui sont... Bon, il y a des non-Grecs qui sont non-hommes, et il y a des hommes qui sont non-Grecs et des hommes qui sont Grecs. Mais tous les Grecs, ils sont des hommes. Donc, il n'y a pas de Grecs qui ne soient pas dans le rond H. Et puis, tous les hommes sont mortels. Ben, vous avez ici... C'est l'implication matérielle, ça. Vous avez ici... Vous réfléchirez de savoir pourquoi. Vous avez ici cette zone-là,
elle est vide, parce que tous les hommes sont mortels, donc tous les hommes sont à l'intérieur de M. Quel est le résultat des courses? Regardez, c'est qu'en ayant écrit que G implique H et que H implique M, qu'est-ce que c'est l'addition que vous pouvez faire?
Ils ont cru pendant un moment que ça pouvait arriver à faire une addition.
C'est pas une addition. Ils ont voulu faire ça comme une multiplication, une addition. Mais le résultat, c'est que G implique M. Pourquoi? Le diagramme, il vous montre très bien. Regardez le diagramme. Vous voyez que quand vous avez mis les hachures qui correspondent à ces deux prémices, ça, c'est les conditions du problème. Vous avez des hachures ici pour celle-là. Des hachures ici pour celle-là. Qu'est-ce que vous constatez ici? Vous constatez, tenez, Lacan, regardez comment il va vous dessiner ça. Lacan, il va vous dessiner ça. Vous êtes arrivé, grâce aux deux conditions, à un truc comme ça. Ah, tiens. Quel est le rapport entre G, H et M? Est-ce que vous arrivez à lire que les hachures vous permettent de dessiner ça comme ça? Vous voyez, ce qui reste de G, c'est une seule zone atomique. Toutes les autres zones ont été supprimées. Cette zone, elle est à l'intérieur de ce qui reste de H. Vous avez cette zone et celle-là. Les deux ensemble, ça fait H. G est donc bien à l'intérieur de H. Et H, c'est ces deux-là qui restent pour H. Les autres, elles n'existent plus. Et du coup, H, il est à l'intérieur de M. Bon. Et c'est en faisant rentrer H à l'intérieur de M que vous faites entrer G à l'intérieur de M, d'où vous pouvez conclure. Ça, Lacan, il a appelé ça le point de capiton. Vous voyez, Lacan, il est marrant. Regardez ça. Regardez comment il a fait ça. Lacan, il a pris ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point ici, ce point ici, ce point ici. Voilà. Je vais vous les mettre en couleur, les points. Vous allez voir, c'est quand même très marrant de faire des mathématiques. Lacan, c'est beaucoup plus marrant qu'avec des maths. Regardez, je vous les mets en rouge, en vert et en bleu. Regardez ça. Regardez, Lacan, quand il voit que les mathématiciens ils font des trucs comme ça, vous avez ici trois ronds bleus, et puis là, vous avez un rond rouge. Ça, c'est tous les points d'intersection. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon. Regardez. Lacan, il va considérer que toute cette zone assurée, on peut... Rien n'empêche, c'est ça la topologie, rien n'empêche cette zone assurée de considérer que c'est un cercle. Pourquoi? Pourquoi cette zone assurée que je viens de border de vert, ce serait un cercle? Parce que le cercle vert, justement, c'est une ligne continue qui est fermée. Alors, une ligne continue qui est fermée, c'est ça. Pof. Vous pouvez mettre un ovale, si vous voulez, un cercle, un ovale, un carré. Choisissez ce que vous voulez comme forme, on s'en fout. Et puis sur ce cercle, vous allez mettre des points. Il y a un point rouge et il y a cinq points bleus. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà le point de capiton. Qu'est-ce que c'est le point de capiton? C'est quand même de la technologie. Et c'est quand même de la très jolie technologie. Vachement technologie. Très néolithique, un peu classique, un peu grec, encore, peut-être. Alors, je ne vais pas mettre des lettres sur les points, mais vous ferez, vous, si vous voulez, pour vous y retrouver. Bon, je peux mettre des chiffres, regardez, on va appeler celui-là 1, celui-là 2, celui-là 3, celui-là 4 et celui-là 5. Et puis celui-là, on l'appellera 6. Bon. 1, 2, 3, 4, 5. Hein, pour ne pas vous enquiquiner, je les ai mis dans l'ordre, je tourne comme ça. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. En les numérotant, vous apercevez que ce qui reste du rond, regardez, ce qui reste du rond M ici, c'est là-dedans, c'est dans le bord vert, et puis ici ça a été hachuré, et ici c'est encore à l'extérieur. De 1 à 5, vous avez M. C'est chouette. Et puis à l'intérieur de cette zone que je viens de délimiter,
si vous allez de 1 à 4, vous avez un bout de H qui reste là. Vous voyez, 1 à 4, c'est le rond H. Je ne mets pas de couleur, hein, parce que comme ce sont des ronds, vous êtes censé les reconnaître plus facilement. Je ne sais pas, vous êtes déjà perdu dans vos calculs. Mais de 1 à 4, c'est un bout de H. Et de 2 à 4, c'est un bout de G. C'est tout ce qui reste. Hein. Donc de 2 à 4, ça c'est H. Et de 2, et de quoi? De 3 à 4, vous voyez, de 2 à 4, de 1 à 4, j'ai dit.
De 4, c'est G.
Attendez, c'est H qui est de 1, ça c'est G. Ça c'est G, oui, parce que je l'ai dit en deuxième, et vous voyez, j'ai du mal à reprendre, à sauter, à revenir en arrière. Il faut que je reprenne les choses au miroir. Donc voilà, de 1 à 4, de 1 à 4, hein, de 1 à 5, c'est L, de 1 à 4, c'est H, et de 2 à 4, c'est G. Donc voilà, ça c'est H. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est pas la même chose que ça? Vous allez me dire, non, c'est pas la même, monsieur, c'est pas la même chose que ça. C'est pour ça, c'est pas la même chose que ça. Qu'est-ce qu'il y a là? Ben, c'est pour ça qu'il l'appelle Pointe-Capiton, là, quand il dit, mais réfléchissez. Pointe-Capiton, il se moque des psychiatres et des portes capitonnées à Sainte-Anne quand il parle de Pointe-Capiton. Vous savez ce que c'est, le capitonnage, hein, pour qu'on se cogne pas la tête contre les murs? On met du tissu, du cuir sur les murs, on rembourse pas de. Hein, on met un bourrage là-dedans, puis on met des boutons. Le point de capiton, c'est quelque chose comme ça. Ça se trouve dans les. Ça se trouve comme ça. Vous voyez, on met un bouton ici. Ça s'appelle un point de tangence en logique. Quelle est la différence entre ça et ça? Ben, je vous le dessine. Je vous le dessine comme ça. Mais ça, je vais faire le rond vert plus petit. Je fais le rond vert comme ça. Parce qu'il est trop grand, hein. Le rond vert comme ça. Regardez. Et je marque plus les points. Ce que j'ai, c'est que j'ai un truc comme ça, un autre truc comme ça, et un troisième truc comme ça. Hein? Et puis maintenant, je réduis encore mon point vert. Le point vert, parce que c'est un point, je le réduis à un point. Si je réduis le vert à un point, j'obtiens ça. Les points que j'ai disposés sur le pourtour, les points bleus et le rouge qui sert à rien, vous voyez? Bon, regardez, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre ça et ça? Ben là, les ronds, ils sont collés les uns aux autres. Alors là, maintenant, vous les séparez, vous les avez comme ça. Et le point vert, il suffit de le diviser en trois. Hop, et vous avez ça. Donc ça s'appelle... Ça, c'est un type de patatoïde avec des inclusions. Ça veut dire que G est inclus dans H, qui est inclus dans M. Donc, G est inclus dans M. Hein. Vous voyez un peu comme dire je m'emmerde dans la vie. Je fais tout ça pour vous expliquer que si G est inclus dans H et H est inclus dans M, ben G doit être inclus dans M. Bon, vous pouvez dire, il est couillon, ce mec. Bon. Et ben moi, j'aime bien passer mon temps à faire des choses comme ça qui servent apparemment à rien, mais qui sont quand même épatantes. C'est diagrammatique, c'est épatant d'un point de vue diagrammatique. Alors vous pouvez parler de patate, mais les matheux, ils négligent ça, ils appellent ça patatoïde et tout ça. Non, pourquoi est-ce que ça, ce ne serait pas aussi compliqué? Voilà, les mathématiques, ça ne s'arrête pas seulement sur un condensé de ce type, hein, les petites tables 0,1. Les mathématiques, ça continue jusqu'à cette activité diagrammatique. Et qui s'appelle aujourd'hui, c'est pas de la théorie des ensembles, il y a un conflit encore très dogmatique entre les mathématiciens et la théorie des ensembles. Le débat, il est plus entre théorie des ensembles, les formalistes, Hilbert, et puis Brouwer, l'intuitionniste. L'intuition, ah oui. Moi, je pense que l'intuition, c'est très important, aussi bien dans l'analyse que dans les maths. Mais d'accord, on peut garder le mot d'intuition, c'est un mot qui vient de Kant, hein. Il se trouve dans la critique de la nature. Ma sensibilité fournit à mon intuition des objets. Mais ce que Kant a oublié, c'est que ma sensibilité fournit aussi à mon intuition des lettres, des dessins.
Et que ça, je ne les conceptualise pas, même si je veux. Vous voyez, ça, c'est fait pour traiter du concept P, Q et R. Ça, c'est fait pour traiter du concept grec, homme et mortel. Hein? Mais quand je fais ça, je ne vais pas le conceptualiser. Ça, je vais le lire. Et voilà, voilà, c'est ça le freudisme. Je vais lire ça. Et écrire, inventer des écritures. Freud, c'est quelqu'un qui invente de l'écriture comme n'importe d'ailleurs. N'importe quel enfant qui va apprendre sa langue, il va inventer à parler sa langue, hein, d'une manière différente. Ensuite, on lui dira non, tu ne parles pas bien, il faut que tu corriges ça. Il va frotter un peu ça aux copains et aux parents. D'ailleurs, il tient plus compte du copain, parce que c'est un peu costaud. Bon, et puis, mais c'est sûrement pas en, en s'adaptant. C'est sûrement pas en étant adapté. Au contraire, s'il est déjà adapté, il sera tellement adapté qu'il reste débile. Ça s'appelle autisme. Vous voyez ? C'est quelqu'un d'hyper adapté. Il est parfaitement adapté. Il s'aperçoit que de toute façon, les parents, ils trichent déjà. Alors lui, il ne veut pas que ça triche. Donc du coup, on ne joue pas le jeu, donc on ne joue pas. C'est quand même vachement difficile d'apprendre à jouer à l'hypercal. Et puis ensuite, il y a l'incorporation. Alors là, je ne vous le dis pas, il y a des trucs qui s'appellent les incorporels, qui sont des choses à lire, mais qu'on ne peut pas écrire. Alors là, c'est ce que je vous dis des mots d'esprit. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai raconté un mot d'esprit. C'est pour vous faire sentir qu'est-ce que c'est que le mot d'esprit. Le mot d'esprit, c'est un truc qui fait rire parce qu'il y a de la signification, parce qu'il y a de l'incorporel, parce qu'il y a des trucs à piger qui ne sont pas lits. Tout n'est pas dit, vous voyez. Et c'est même pour ça qu'on arrive. Parce que d'abord, il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'une fille au père. Oui, le japonais, il est quand je le raconte en Argentine, cette histoire, j'ai beaucoup de mal, parce que je ne sais pas comment ils disent fille au père en argentin, en espagnol. Moi, je suis un peu emmerdé. Comment on dit fille au père?
Criada.
Comment?
Criada.
Criada, celle qui n'est pas payée, qui est juste, on lui donne à manger, on la loge, et elle garde les enfants. Donc elle est criada. Le japonais, il est criada. Criado.
Criado, il veut bien.
Alors, voilà. Vous voyez, voilà un truc typiquement les conneries de Lacan. C'est encore plus con que ce que faisait Souris. Souris était polytechnicien, quand même. Il était quand même quelqu'un d'extrêmement sérieux. Bien qu'il jouait des naïfs, il aimait bien pour voir faire un peu le con, pour voir un peu comment ça pouvait bouger. Et Lacan, lui, il vous dit, pour pratiquer la psychanalyse, il faut user le truc jusqu'à la corde. Vous voyez ? Et c'est ce que j'appelle user le truc jusqu'à la corde, c'est de voir que ce diagramme savant, finalement, il ne faut pas se laisser intimider par le savoir. Non, le savoir, c'est des choses qui ont été inventées. Vous avez la notion, quand je vous parle de la parole et de l'écriture, la parole, ça traite de la vérité. Celui qui parle dit la vérité. Évidemment, c'est pas vrai, mais peu importe. Quand c'est en public, c'est la vérité. Quand c'est en privé, on sait bien qu'il ment. Hein, ça fait la rumeur que les sociologues ne comprennent pas. Et la langue, ça s'apprend comme la rumeur, ça s'apprend, la langue pour les enfants, ça s'apprend exactement de la même manière. Ils apprennent à lire, et ils apprennent à parler, ils apprennent à écrire, à partir du trauma, à partir de l'incorporation, et c'est deux choses tout à fait différentes. La parole, c'est la dimension de la vérité, c'est une dimension mystérieuse. Puisque c'est quelque chose, c'est ce que je vous expliquais la semaine dernière avec le phallus, c'est cette chose qui est présente quand c'est, même quand c'est absent, et qui est absente même quand c'est présent. Alors, je ne sais pas si j'ai été très bon la semaine dernière, mais j'ai essayé de vous le faire avec I de X égale X. Bon. Mais maintenant, l'écriture, elle, c'est lié au savoir. Faites l'expérience, les gens qui vous... Pourquoi est-ce que Lacan nous dit le savoir, ça s'invente? Il dit, ça, c'est dans les noms du R, hein, il dit, c'est la leçon numéro 7. Il dit, le savoir, personne ne s'est posé la question de savoir qu'est-ce que c'est. Et lui, il conclut, le savoir, ça s'invente. Moi, je vous propose un élément là-dessus en plus. C'est quoi? Ben, c'est parce que le savoir, c'est lié à l'écriture. Vous savez, le savoir, c'est pas la connaissance, c'est pas l'érudition, c'est pas le connaître. Le savoir, c'est pas non plus le savoir-faire. Bon, il y a un savoir-faire. Et d'ailleurs, à mon avis, le savoir-faire, ils ont quelque chose à voir avec l'écriture aussi. Bon. Mais ce qu'on appelle le savoir, qui n'est pas savoir-faire de l'artisan, qui n'est pas connaissance, érudition, mémoire, le savoir, vous êtes sûr que quand on parle de quelqu'un, c'est toujours quelque chose qui est lié à la lecture ou à l'écriture. Savoir écrire et savoir lire. Eh bien, ces choses-là, ça s'invente. Parce que les écritures, on les invente. Le problème de notre civilisation, c'est qu'on est complètement étouffé par un système d'écriture, l'écriture avec un alphabet latin, qui prétend dupliquer la langue parlée. Alors là, c'est la ruine totale. Les paranoïaques Hitler, ils ne supportent pas les juifs parce que les juifs, ils n'écrivent pas toutes les lettres. Il y a des lettres comme les voyelles, ils ne les écrivent pas, ce qui fait que ça permet un peu de souplesse, vous voyez. On peut inventer des écritures très différentes. Donc, Lacan, qu'est-ce qu'il fait ? Il prolonge d'une manière extrêmement exigeante et interrogative les choses qu'il peut lire en mathématiques, hein, qui sont des inventions, et ça le conduit à inventer des trucs. Et bien, c'est un très bon exercice pour inventer sa psychanalyse. Pour inventer sa psychanalyse, il ne suffit pas de jacter, d'inventer des conneries, surtout qu'on n'invente pas beaucoup. Voilà, vous savez, moi je vous dis, après 30 ans d'exercice, même peut-être un peu plus, ça fait moi j'ai commencé en 75 à recevoir une passion, ça fait donc 25 et 10, ça fait 35 ans. En 35 ans, je peux vous dire, je ne suis pas vieux, hein, j'ai que 63 ans, donc ils vont m'avoir bientôt, mais pas tout de suite. Et donc, 35 ans, je vous promets que la plupart des gens que vous rencontrez, ils ont lu ou ils ont entendu parler par quelqu'un d'autre de Freud ou de la psychanalyse. Il y en a qui disent clairement je suis jungien, il y en a d'autres qui disent je suis adlérien. Bon. La majorité, sauf ceux qui deviennent psy, qui sont un peu plus, qui lisent un peu plus, pour voir comment et quoi, c'est des gens qui viennent et qui vous disent tout naïvement qu'ils ont une idée de la psychanalyse, ils savent ce que c'est, qu'ils vont vous la faire parfaite. Ils vont d'ailleurs être parfaitement adaptés. Là, vous avez ceux qui sont de la théorie de l'anamnèse et de la réaction, de la scène primitive, de la répétition. Bon, ça, on sait déjà plus très bien ce que ça veut dire, la répétition, quand même un peu inquiétant, puisque je crois qu'il dit que c'est même maléfique. Alors, déjà, on se méfie. Donc, vous voyez, on prend des bouts de théorie, on a lu des trucs, et on essaye de s'adapter à un fragment de psychanalyse. Alors, moi, je vous dis, si vous faites que jacter, il faut jacter dans la psychanalyse, c'est d'abord parler. Il faut parler. Okay, c'est quand même parler à quelqu'un en présence de ce quelqu'un, c'est sûrement une circonstance absolument extraordinaire et dont il faut profiter pour s'apercevoir qu'on ne peut pas lui dire tout ce qu'on veut. Donc il ne faut pas qu'il y ait de règlement, pas qu'il y ait d'interdiction. La moindre contrainte doit disparaître parce que des contraintes, il y en a toujours. Les pauvres crétins du XXe siècle, ils ont tout de la psychanalyse, c'est du laxisme. Vous voyez, regardez, on en est Sarkozy, il reste qu'il dit avec portefeuille, ils appellent les flics à tout propos. Hein. Parce qu'ils croient que les gens de gauche, ils sont progressistes et que les progressistes, ils sont des laxistes. Non, mais peut-être qu'il y a des socialistes qui sont laxistes, hein, je ne sais rien, mais moi je pense qu'il y a aussi des mecs de droite qui sont escrocs. Bon. Alors, de toute façon, non, mais le problème, il est quand même là. Il est quand même de dire qu'il y a même des pauvres types qui sont paumés dans ce monde, mais c'est quand même la psychanalyse, ce n'est jamais été ni l'anarchie, ça se vend pas, ni la liberté. C'est même au contraire une prophylaxie de la dépendance. Hein? Comment arriver à vraiment sortir de la dépendance, vous voyez ? Eh bien, si vous parlez, si vous faites que parler, si vous écrivez pas un peu, si vous réfléchissez pas à comment inventer quelque chose, vous arriverez pas à en sortir. Vous arriverez pas. Alors, vous pourrez faire comme cette dame là, qui dit que moi j'ai élevé mes enfants, je me suis marié, j'ai élevé mes enfants, j'ai fait des enfants, je les ai. Ça, très bien. Bon, bravo, grâce à la psychanalyse, merveilleux, tout ça, Paul. Alors, tout le monde, c'est une grande victoire de la psychanalyse, vous voyez, c'est le professeur Daco, le docteur Daco, je crois que ça fait comme ça, prendre un marabout. C'était ça, hein. C'était terrible. Moi, j'avais une copine quand j'étais gamin au lycée, elle lisait que ça. Elle emmerdait toute sa famille. Elle faisait chier tout le monde. Je me suis dit, si elle dit, c'est ça, jamais je entendre parler de ce truc. Hein. Bah, oui, c'est quand même terrible. La psychanalyse sauvage, quand il dit, faites attention à la psychanalyse, c'est un délire ready-made. C'est du Duchamp, hein, ready-made. Et on en voit plein qui errent dans les couloirs des hôpitaux. Des gens qui font la psychanalyse ready-made. Donc, je pense que les psychanalystes doivent dire des choses comme ça. Ils doivent dire, Alors, quelles sont les conditions? Quelles sont les contraintes? D'abord, que le sujet soit pas fou. Parce que comment arriver à dire à quelqu'un « Allez-y, déconnez à plein tuyau » c'est ce qu'on lui propose. Et déconner à plein tuyau, moi quand je dis ça, déconner à plein tuyau, il y a des collègues, alors vous voyez, il y a des psychiatres qui disent ah non, il ne faut pas dire ça, la psychanalyse, c'est pas ça, ça. Je dis oui, d'accord, mais qu'est-ce que c'est? C'est justement proposer à quelqu'un de déconner à plein tuyau. Mais il y a des conditions. Il ne faut pas se croire, il ne faut pas se prendre pour. Ça, c'est pas être fou, pas être une belle âme. Et puis, donc c'est la folie. C'est pas, être, pas avoir un surmoi gros comme une maison, parce que plus on est irresponsable, plus on a un gros surmoi, plus on est culpabilisé. Et le fait d'être angoissé n'est pas sûr que ça soigne du surmoi, de la culpabilité. Et puis, inventer, déconner à plein tuyau avec la parole, mais à charge pour l'analysant, c'est ça qui n'est peut-être pas le mode d'emploi. Hein, puisque l'analyste, on dit, l'analyste c'est qui? C'est quelqu'un qui a des patients, il est analysant. À charge pour lui d'avoir été analysant et d'être toujours analysant et de continuer toute sa vie d'être analysant pour être un peu en avant. Pour pas empêcher, pour pas emmerder ces analysants en les arrêtant. Hein, faites pas ça, non c'est dangereux, attention. Non, non. Le problème, c'est que chacun prend sa responsabilité. Les analysants, ils sont responsables de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent. C'est même le seul discours, le discours analytique, c'est un discours d'une exigence effrayante, je vous dis. Faites attention, l'inconscient, c'est quelque chose qu'il faut absolument pas mettre au pouvoir. Regardez. Ces espèces d'escrocs de nazis, là, dont je parlais tout à l'heure, ils croient qu'ils ont foutu l'inconscient. Les totalitarismes, c'est l'inconscient au pouvoir.